tous, retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, c'est 19h20, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de la demi-heure sport. L'émission est réalisée ce soir par Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe, comment ça va?
Ben bonsoir à tous, bienvenue.
Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu Jean-Philippe dans les studios d'Hiver TFM.
Ça fait un petit moment, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir de te revoir. Et bien sûr, il est caché, mais il y a aussi le président de Hiver TFM qui était là. Quand on reçoit des personnes importantes, il est toujours là. Allez, ce soir, on va parler football. Pour l'occasion, on reçoit l'équipe du Trélissac Périgueux Antoine Football Club, qui a réalisé une saison exceptionnelle. Première place de la poule de R1. Sur 22 matchs, ils ont fait 19 victoires. 2 nuls et une défaite. On va revenir avec eux sur cette saison exceptionnelle où c'est qu'une accession en National 3. Alors on a un petit peu taquin, on va dire National 3, mais finalement non, parce que l'année prochaine ils seront en National 2. Du coup, retour en National 2, on vous expliquera pourquoi. On reçoit deux invités, on reçoit le coach qui est avec nous, c'est Mohamed Haki. Comment ça va Mohamed?
Bonsoir à tous, ça va très bien.
Et il est accompagné du directeur général du club, c'est Joël Alberni. Bonsoir Joël.
Salut Jérémy.
Allez, on va attaquer du coup cette émission. Du coup, on va revenir sur cette saison exceptionnelle que vous avez menée. J'ai posé ma première question du côté de Momo. Je vais te dire Momo, hein,
ouais,
c'est que tout le monde
plaisir.
Te connaît comme ça. Du coup, le coach de ce club. Première question, qu'est-ce qui a fait que la montée de Trélissac, cette montée en Trélissac en National 3 qu'est-ce qui a fait que tout a basculé
du bon côté, vous voulez
bon
dire?
Bon côté, voilà.
Bah écoutez, c'est le travail de tout un club en fait, que ça soit la direction jusqu'aux éducateurs, aux jeunes, aux supporters, aux bénévoles, aux joueurs. C'est un travail tous ensemble qu'on a réussi à faire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, et on est content d'avoir atteint l'objectif qui était de remonter, parce que Trélissac, sans manquer de respect à personne, n'avait pas sa place en régional, mais sa place au niveau national. Donc, on s'est retroussé les manches après deux années difficiles où il y a eu deux descentes consécutives.
Ouais.
Et on a travaillé dur, vraiment, avec beaucoup de sacrifices. Et on a été récompensé. Donc, on est vraiment très heureux et très épanouis d'avoir remis en fait Trélissac en National 2, comme vous l'avez dit.
Voilà. National 2, du coup, pour expliquer, il y a la National 3 qui arrive. Donc, National, National du coup, qui sera la National 1. Non,
alors,
National
en fait,
3.
La National 1 actuellement, qui va devenir Ligue 3.
Voilà, exactement.
Et donc, la Fédé va faire National 1 et National 2.
Et National 2, voilà. Donc,
il n'y aura plus de National 3.
Il n'y aura plus de National 3, mais finalement, c'est la N3, du coup, pour l'ancienne N3.
Oui, complètement.
Voilà. Voilà. Johan, du coup, on a eu des moments difficiles, une descente du coup en R1. Comment on a fait du coup au niveau du club, parce qu'il a fallu aller chercher du coup Mohamed. Comment on a fait du coup pour restructurer un peu tout ça et pour remettre de l'ordre dans la maison?
Après, alors c'est toujours facile de parler a posteriori, mais il y a quelque chose qui m'a fait plaisir la semaine dernière, c'est que j'ai deux partenaires qui nous ont dit quelque chose que nous, on n'avait pas forcément senti sur le coup, puisque l'année dernière, vous doutez bien que la période n'était pas extraordinaire à la même époque. Mais ils m'ont dit, on a senti qu'en fait, au mois de juin, ça paniquait pas dans le club.
Ouais.
Donc je pense que c'est avant tout, ça a commencé par ça. Effectivement, les présidents ont tout de suite réagi après l'officialisation de la descente pour reconstruire un staff. Nous, après, derrière notre travail, c'était de reconstruire derrière l'équipe avec Mohamed et Toufik. Mais je pense que c'est vraiment sur ce côté-là qui a été vraiment crucial dans la gestion des deux intersaisons. Après, on a été clair aussi avec tout le monde. Mohamed l'a dit en utilisant l'expression « se retrousser les manches ». C'est que tout simplement, on a dit à tout le monde, il y a une cartouche dans le fusil. Va falloir viser juste de A à Z. Et ce qui nous intéresse, c'est pas d'être champion du monde des matchs amicaux ou champion d'automne, c'est d'être premier au 6 juin. Voilà. Donc ça a été entre guillemets un peu un discours d'opération commando sur toute la partie estivale.
Ouais.
Et une opération commando entre guillemets, bien sûr toute proportion gardée, mais ça commence par le travail.
Ouais.
Et c'est surtout ça que Mohamed et Toufik se sont attachés avec le reste du staff à mettre tout le monde au boulot et devant ses responsabilités, avec un groupe très jeune qui avait aussi, je pense, envie, et pour certains qui découvraient un petit peu la structuration du club. Et mine de rien, on a quand même gardé une certaine voilure, une certaine structuration à Trélissac qui fait que certains joueurs sont arrivés aussi en disant « je passe un palier ». Ok, Trélissac est en R1, mais je passe aussi un palier dans ma carrière de joueur par rapport à ce que j'ai déjà connu. Donc voilà, donc effectivement, au niveau du club, nous, on ne va pas faire de triomphalisme parce que, comme l'a dit Mohamed, on se remet à notre place. Mais pour les joueurs et pour le staff, je tiens vraiment à souligner leur réussite parce que ce n'était pas gagné d'avance. Le groupe était très jeune et ils ont réussi à faire ce qui leur a été demandé. Quoi, donc bravo à eux.
Est-ce que là, quand on entend un petit peu Yohan, il n'y a pas une certaine pression du coup entre toi et Toufik?
Une pression, c'est-à-dire?
Une pression du coup supplémentaire en se disant il n'y a qu'une cartouche dans le fusil. Quand on entend ça, c'est quelque chose qui... Enfin, ça fait peur, quoi.
Oui, oui.
Non, on dit on n'a pas intérêt à se tromper, quoi.
Mais quand j'ai
on n'a pas intérêt à se tromper non seulement sur les choix qu'on va faire, on n'a pas intérêt à se tromper aussi sur le recrutement. Parce qu'on sait qu'un recrutement, c'est super important.
Ah, mais complètement. Après, j'aime bien cette pression, justement. Donc, ouais. C'est ce qui me fait avancer. Effectivement, quand le président Fabrice Faure et le second président Patrick Guérite m'ont contacté pour me proposer le poste, je savais où je mettais les pieds. Donc, l'objectif, c'est très clair. Soit j'atteignais l'objectif de remonter en National 3, soit la saison suivante, je prenais la porte. Donc, c'était très clair. Mais moi, j'aime ces challenges, justement, et c'est ce qui me fait, c'est ce qui me fait avancer et qui me fait progresser. Donc non, aucune pression. La seule chose que j'ai demandé à ma direction, c'est d'avoir carte blanche pour faire mon effectif. Voilà, je vous aurais dit, je veux carte blanche, comme ça, si je n'y arrive pas, au moins, je peux faire des reproches qu'à moi-même. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai construit mon effectif, j'ai pris le choix de faire un effectif très jeune avec beaucoup de potentiel, donc, et surtout de prendre des bons joueurs, mais surtout des personnes qui ont un très bon état d'esprit, parce que je voulais créer vraiment un groupe où on allait passer de longs mois ensemble à travailler, à avoir des joies, des coups de mou, des frustrations, des engueulades, et qu'il fallait avoir des personnes qui soient capables d'accepter tout ça. Et donc, dans mon recrutement, c'est là où je me suis mis à chercher des joueurs donc, de qualité, un, et deux, avec un état d'esprit qui soit capable de s'adapter au club de Trélissac, et surtout qui soit capable de bosser dur pour atteindre l'objectif. Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, on a réussi l'objectif, donc ça veut dire que le recrutement a été bon. Donc je suis très satisfait. Ouais. Mais la pression, non, je vous dis, dans ce cas-là, on ne fait pas ce métier-là si on ne veut pas de pression. On fait autre chose. Et je vous dis, avant d'arriver à Trélissac, j'étais à Bilbao, j'entraînais les jeunes. Donc j'étais en CDI, j'étais, on va dire, très tranquille, sans pression. J'aurais voulu rester là-bas, j'y serais resté. J'ai choisi l'opportunité Trélissac parce que cette adrénaline de la compétition, du challenge me manquait et c'est pour ça que j'ai accepté ce challenge.
Et aussi tu connaissais la maison parce que tu avais emmené je crois les U16 aux portes du niveau national. C'était donc tu connaissais aussi la formation, tu savais comment le club travaillait aussi.
Bien sûr, complètement, j'ai passé 2 ans à Trélissac, j'avais entraîné les U17 R1 et la saison suivante j'ai pris les U16 avec l'objectif de monter en 17 NAS. Et là, par contre, j'ai échoué dans l'objectif. Effectivement, on a perdu en finale de play-off au pénalty.
Au pénalty, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Ouais,
donc,
mais pour moi, ça reste un échec parce que je n'ai pas atteint l'objectif. Et justement, c'est ça qui m'est resté. Quand je suis parti ensuite derrière, j'avais comme il me manquait quelque chose avec Trélissac. Je n'avais pas fini mon histoire avec Trélissac. Et quand j'ai eu l'opportunité de revenir, j'ai saisi l'opportunité. Et là, cette fois, on a atteint l'objectif, donc très content.
Qu'est-ce qu'on dit quand on est du coup directeur général d'un club, quand on entend un petit peu partout en Dordogne en disant Trélissac bien sûr va remonter en R1, mais en même temps c'est tellement logique avec le budget qu'ils ont. Qu'est-ce qu'on dit à ça?
Parce que nous les premiers, si on, entre guillemets on a utilisé les expressions là que j'ai pu citer tout à l'heure, c'est qu'on savait aussi le budget qu'on mettait sur la table.
Ouais.
Ce que il faut bien comprendre, c'est que le grand public entre guillemets aussi a pu nous reprocher notre descente. De toute façon, on est descendu, donc on va pas revenir là-dessus. Mais donc du coup, on s'est trompé dans certains choix. Par contre, ce qu'on voulait, c'est de dire l'objectif, c'est tout de suite de remonter. Donc c'est pas en sabrant les moyens de l'équipe première ou les moyens de travail qu'on va dire optimiser une possible remontée dans la saison qui suit, puisque c'était l'objectif de ne pas rester et on va dire de entre guillemets pas croupir parce que c'est pas le terme, la Régionale 1 est un beau et un beau championnat, mais ce que je veux dire c'est que voilà, vis-à-vis des partenaires du projet du club, c'était remettre tout de suite une dynamique. Donc oui, on avait un budget conséquent. Après, tout n'est pas mis sur l'équipe première. C'est pas la première fois que je le dis ici, je pense. Tout n'est pas mis sur l'équipe première. Il y a le volet structuration et formation qui est toujours d'actualité. On a un siège aussi qui fait quand même 800 mètres carrés. Donc avec des installations, une salle de musculation, avec un bain froid. Donc tout ça, ça s'entretient, ça se paye. On a une taxe foncière aussi à payer. Je pense pas que... tous les clubs aient la même taxe foncière que nous, forcément ça va avec le bâtiment. Donc tout n'est pas sur l'équipe première non plus.
Voilà.
Voilà. Mais après on est conscient qu'on avait un beau budget derrière. Donc après on peut pas nous reprocher de descendre et d'un côté de remonter en disant ouais mais c'est normal, ils ont un budget conséquent. Voilà. Et à l'inverse quand ça va pas nous dire.
Et on peut rappeler dans d'autres poules, par exemple le Stade Bordelais, qui avait un petit peu le même projet que vous, et finalement, aujourd'hui, ils sont en train de jouer le maintien, du coup, en R1. Donc, il y a aussi des choses qu'il faut se dire que ça peut marcher, comme ça ne peut pas fonctionner aussi.
Non, mais complètement, ouais. Je rebondis ce que dit Johan. C'est pas parce qu'il y a de l'argent que ça marche à tous les coups, sinon le PSG serait champion d'Europe tous les ans.
Ouais, ouais.
Je prends l'exemple en N2, il y a des clubs comme Cannes, Créteil ou Nîmes, qui ont des budgets incroyables et forcément il n'y en a qu'un qui va monter, ou comme vous l'avez répété, le Stade Bordelais qui joue le maintien, ou même d'autres. Nous, je répète, on a 4 fédéraux dans mon équipe, j'ai 4 fédéraux. Notre voisin Boulazac en a 5.
Ouais, ouais.
Et pourquoi eux jouent le maintien et pas nous? Donc non, ça c'est des fausses excuses de gens.
Oula,
qui...
Oula Mohamed, tu mets un petit peu le feu là, entre les deux clubs, entre Boulazac
et Trélissac. Non, pas du tout, chacun...
T'as le clin d'œil, t'as le bonjour en direct du speaker de Boulazac qui vient de réagir en direct.
Oui, non, pas du tout. C'est pour simplement vous montrer que c'est pas forcément en fait l'argent qui fait réussir. Bien sûr, ça participe, bien c'est sûr. Plus facile, mais après il faut du travail. Parce qu'on aurait pu, avec les moyens que m'ont donné Trélissac... pareil, l'objectif, il ne m'avait pas demandé le nombre de séances que je devais faire.
J'aurais pu faire que
3 séances comme quasiment tous les clubs de R1. Et pourtant, non, j'en ai fait 5 ou 6. Donc, c'est vraiment le travail qui est récompensé. Et ça, c'est les fausses excuses de ceux qui sont un peu jaloux de Trélissac qui sortent ces arguments-là.
Sur le tuyau, j'étais chercher des jeunes joueurs et tout. Comment ça s'est passé? Comment tu as été, du coup, aller chercher ces hommes?
Eh bien, donc après, on a fait travailler nos contacts donc avec Johan, avec mon adjoint Toufik. Donc, les connaissances qu'on avait, les agents, les joueurs qu'on avait repérés aussi, exactement. Et on a tout regroupé. Et après, on a fait les choix par rapport au projet de jeu que je voulais mettre en place, quel joueur correspondait le mieux. Donc, que ce soit dans le jeu, mais aussi, comme je vous ai dit, dans l'état d'esprit. Donc, ça a pris pas loin d'un mois et demi où on a bossé dessus d'arrache-pied pour construire la meilleure équipe, toujours dans l'objectif d'avoir un équilibre et d'avoir un groupe, mais pas des individualités.
D'accord.
Donc, et c'est ce qu'on a réussi à faire, malgré pourtant des jeunes joueurs. Je vous dis, je sors Jimmy Burgot et Anthony Eustache de mon effectif. Ça tombe tout de suite à quasiment moins de 22 ans de moyenne d'âge.
Ah oui, donc, aujourd'hui, ouais.
Donc c'est incroyable. Donc non, c'était un pari que je voulais faire parce que j'étais convaincu qu'avec un groupe jeune et avec du travail, on y arriverait. Et donc c'est ce qu'on a fait et je suis très satisfait.
Pour toi là, quelle a été la clé? À quel moment ça a été la clé? Tu t'es dit là c'est bon, on va aller jusqu'au bout. Il y aura pas de doute.
Après la prépa. Quand j'ai vu ce qu'ils ont encaissé, ce que je leur ai mis et qu'ils ont encaissé que il n'y en a pas un qui a rechigné, qu'ils étaient tout le temps assidus et qu'ils étaient volontaires. Là, j'ai dit avec eux, on va pouvoir aller très loin. Et la preuve, la récompense, c'est qu'on a enchaîné derrière la prépa, on a enchaîné 12 matchs, 12 victoires. Et là, ça nous a lancé vraiment notre saison. Et je savais à la trêve, je savais qu'on irait au bout parce qu'on avait déjà 13 points d'avance.
13 points d'avance, ouais.
Et qu'il fallait simplement aborder la deuxième partie de saison sérieusement, ne pas s'effondrer et qu'on y arriverait. Et je suis étonné parce que là, on est à 4 journées de la fin. On a 19 points d'avance sur le deuxième. Je ne sais pas si vous imaginez,
mais
c'est incroyable. Un club, je prends l'exemple, un club où il y a Valentin Dumont, un copain, Limoges, on les a mis à plus de 30 points. Donc non, non, c'est ce qu'on est en train de réaliser, c'est exceptionnel. Et je vous dis, c'est surtout 12 victoires de suite, c'est exceptionnel. On a fait que gagner à l'extérieur. Tous les matchs à l'extérieur, on les a tous gagnés. Je vous dis, ouais. Mais trois faux pas, les deux matchs nuls et la défaite, c'est à domicile. Donc c'est
avec plus de 73 buts marqués.
Complètement. Voilà. Ouais, ouais. Après l'objectif, ça c'est ma philosophie. Je préfère gagner un match 5-4 que 1-0.
Oui, oui, oui.
Voilà, je préfère marquer beaucoup de buts, quitte à en prendre, que inverse rester frileux. Parce qu'en fait, je pars du principe que ça reste des joueurs, parce que même s'ils ont des choses de la part du club, ça reste un niveau amateur. Donc il faut donner du plaisir aux joueurs pour qu'ils s'épanouissent. Donc moi, je veux que mon équipe, elle joue, elle prenne des risques, elle tente, elle marque des buts, elle attaque plutôt que d'être très défensif et pas prendre de risques. Je ne suis pas dans ce style-là.
Pas dans ce style-là. Yoann, du coup, en coulisses, comment toi, tu as senti que du coup, on était bon, là, on tenait le bon bout?
À quel moment, tu veux dire?
Ouais, à quel moment, ouais.
Il y a eu un premier indicateur. Alors, l'équipe avait bien lancé son championnat, mais je crois que j'en avais parlé tout de suite avec Mohamed. C'est quand Bressuire, qui était un peu annoncé comme notre concurrent principal, s'est fait éliminer tout de suite quasiment de Coupe de France. Et l'année dernière, on avait vécu cette situation-là où, en début de saison, en fait, le calendrier national fait que on se retrouve avec des trous et parfois on ne joue pas pendant 15 jours. Voir un peu plus suivant le calendrier, et ça, ce genre de week-end sans match, ça peut enrayer tout de suite une dynamique. Et j'avais dit à Mohamed, j'ai dit ça c'est une très bonne chose pour nous que Bressuire soit éliminé de Coupe de France, parce que sur octobre et novembre ils vont pas pouvoir enchaîner le match et avoir le même rythme que nous, parce que vu le calendrier tel qu'il est fait, ils auront du mal à trouver des matchs amicaux d'intensité. Donc ça a été pour moi un très bon signe. Après, après forcément, quand vous gagnez les matchs et que ça se passe bien, qu'on voit la physionomie des matchs aussi, on est rassuré assez rapidement par ça. Mais bon, c'est jamais gagné d'avance. Moi, j'attendais surtout voir comment la trêve allait se passer. Une trêve quasiment au départ prévue de mois et demi.
Ouais.
C'était, je l'avais dit, je crois, ici d'ailleurs.
Ah ouais.
C'était un petit peu ça là, qu'on voulait gérer au mieux, en tout cas être très attentif à ça. Mohamed leur a refait tout de suite une grosse prépa à la reprise après les fêtes. Et puis on a perdu d'ailleurs contre Périgny, je pense qu'on manquait de jus parce qu'il y avait trois grosses semaines de prépa. Et puis tout de suite, ça a re-enchaîné derrière. On a été au-dessus des autres équipes. Et puis bon, là pour nous, on ne pouvait pas le dire parce que mathématiquement, ce n'était pas fait. Mais on voyait que ça, on était vraiment, à partir de fin janvier, on était vraiment normalement, sauf. Cataclysme, ça devait passer pour nous, quoi.
Et une belle affiche du coup aussi face au Pau FC. Ce que vous voyez, le maillot là que vous voyez sur l'écran, qui est dédicacé par tous les joueurs du club. Cette affiche qui a eu lieu du coup à Trélissac, finalement, c'était une très belle affiche. Et puis, honnêtement, on n'a pas forcément vu l'équipe professionnelle contre une équipe amateur.
Oui, sur le match.
Sur le match.
Mais quand on est vraiment de l'intérieur, on voit une grosse, grosse différence. Parce que nous, on a joué à 200%.
Ouais.
Quand eux ont dû jouer à 60-70%. Donc, c'est pour ça que ça a nivelé. Mais nous, on a été obligé de faire une grosse performance pour pouvoir rivaliser. Mais sur la victoire, leur victoire est logique.
Oui, logique.
Mais nous, c'est une récompense, en fait. Les joueurs, pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils rencontrent un club professionnel, une équipe professionnelle. Donc, c'était surtout de dédramatiser l'événement et surtout de jouer libéré. Et je pense qu'on a réussi. Je pense qu'on aurait pu créer la surprise, mais sur l'ensemble du match, leur victoire est méritée. Et nous, de toute façon, on était focalisés vraiment sur le titre de champion de remontée en National 3. La Coupe de France, c'était simplement, ce que disait Yoann, simplement enchaîner les tours pour ne pas avoir de trous, pour éviter de trouver des matchs amicaux. C'est toujours moins valorisant des matchs amicaux que la compète. Donc aller jusqu'au 7e tour, rencontrer une Ligue 2, c'était parfait.
C'était parfait.
Se faire éliminer à ce moment-là.
En plus, jouer à la maison, finalement.
Oui.
C'était parfait.
Non, notre c'est pas péjoratif ce que je dis, mais petit stade de Firmin-Dodou, c'était super et je pense qu'on a fait une très belle soirée. Tout le monde était et ça participait aussi, qu'on le veuille ou non, à la dynamique du championnat, ou en tout cas ça l'a entretenu, parce que c'est des moments qui sont fédérateurs, que ce soit entre les joueurs mais aussi au sein du club.
Ouais. Moi j'étais en tribune presse à côté d'un certain, alors je me souviens plus, ancien joueur professionnel de Guingamp, qui a fait 10 ans je crois à Guingamp, un joueur connu, j'ai perdu son nom, qui était à côté de moi et qui prenait des notes et qui a été vraiment surpris de votre équipe, de comment elle jouait, comment elle était agressive sur le ballon, le pressing que vous imposiez à cette équipe professionnelle. Du coup, il a dit je pensais pas de venir à Trélissac être face à une équipe de R1 qui soit aussi agressif. On se doutait certainement qu'il allait avoir des différences, comme tu dis, des différences athlétiques, mais il pensait que, du coup, que la différence allait être beaucoup plus importante. Et ça, il a pas ressenti du coup sur le terrain.
Bah, la première chose que...
Et puis il disait un peu de folie, finalement. C'était, l'équipe avait un peu de folie en disant, bah, au pire, on joue et...
Oui, mais complètement. Mais c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. J'ai dit, ça reste une Ligue 2, certes, le cinquième de Ligue 2, mais on jouera comme on fait d'habitude en championnat de R1. Donc, il est hors de question de rester en bloc bas, 5 derrière et attendre. Non, ça n'a aucun intérêt. On joue et on joue avec notre façon qu'on a l'habitude de jouer. Si ça, on doit gagner, ben on gagnera comme ça. Si on perd, on perdra avec les honneurs. Donc non, il était hors de question de déjouer juste parce que c'était un événement. Je vous dis, parce que il n'y a que cette façon de jouer que les joueurs prennent du plaisir et ont des résultats. Donc moi, je voulais qu'on aille les chercher, c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça où je suis encore plus satisfait malgré la défaite, c'est qu'on a montré une très belle image et on a jamais fermé le jeu. Et je vous dis, c'est quand le coach adverse vient me voir à la fin du match, il me dit, ça c'est une équipe de R1, il me dit, c'est pas possible. Donc
ouais,
c'est flatteur.
Ouais, c'est flatteur.
Voilà, c'est flatteur. Et tout de suite derrière, après nous, on s'est remis la tête dans le championnat. Et je me rappelle aussi d'une chose, c'est que le capitaine a dit aux joueurs, avant le match, il leur a dit, les gars, croyez mon expérience, gagner, éliminer Pau, ça peut être exceptionnel, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a rien de plus exceptionnel que de gagner un championnat.
C'est sûr.
Et donc, tout de suite, on s'est remis la tête dans le championnat pour atteindre l'objectif.
Allez, maintenant, cap important, c'est le cap de la saison prochaine. Le club, je vais me tourner du coup vers son directeur général. L'an prochain, priorité à l'intégration des jeunes, ou on va faire du recrutement, ou alors on va faire un peu des deux?
Ouais, nous, on a une première réunion là, qui est demain soir. Mais forcément, on va devoir recruter pour se renforcer. Mohamed va aussi découvrir le niveau national 3 en tant que coach principal, même s'il a connu en tant qu'adjoint par le passé, mais oui, il va falloir quand même avoir des, je pense, quelques cadres qui arrivent à rejoindre. On est en train de travailler, on a des discussions. Bon, pour l'instant, on voulait attendre que la montée soit officialisée, ouais, pour commencer quoi que ce soit. Donc là, ça fait une petite semaine que ça a commencé. La première des choses, ça va être de toute façon derrière de voir aussi nos joueurs à nous. Ça va être la première des choses. Donc il va falloir discuter avec tout le monde, puisque de toute façon, c'est le jeu de cette période-là. Hein. On peut aussi avoir des joueurs qu'on souhaite conserver, qui ont été vus, notamment que ce soit par un match de Coupe de France ou par leur belle performance en Régional 1, et qui aient des envies d'aller ailleurs aussi. Donc il y a tout ça un petit peu à prendre en compte. C'est le jeu de cette période. Maintenant, vous l'avez dit, on avait un très beau budget pour la R1, mais on n'explosera pas le budget pour aller en National 3. C'est pas
la politique.
C'est pas la politique de Trélissac. On voit ce qui se passe un petit peu partout dans beaucoup de clubs, que ce soit foot, maintenant un peu rugby aussi, notamment dans la poule du Cap, là où j'ai vu qu'il y avait deux clubs cette année. Là, je crois qu'il y avait qui s'était mis en retrait du championnat, notamment. Ouais. Donc, voilà, nous, le but, je crois que ça fait... de 20 ans que Trélissac maintenant a montré sa solidité financière et sa structuration. Le but, c'est de continuer à travailler. Donc certainement, le budget va un petit peu augmenter, mais on va pas partir à recruter 15 joueurs, changer toute l'équipe. Ça va pas du tout être le but. Si on a des éventuels jeunes capables d'intégrer le groupe, ça, c'est le bilan qu'on va faire avec le RTJ, avec la formation.
Ouais. Mais sur un groupe de N3, on ne sait pas combien de joueurs on va avoir déjà la saison prochaine. Il n'y a pas une idée, il n'y a pas de choses.
Oui, y a bien sûr. Après, il y a Mohamed. Bon, je vais laisser Mohamed en discuter, puisque je crois qu'on en a parlé suite au match de la montée dans la presse. Donc, il n'y a pas de secret. Mais l'idée, oui, c'est d'avoir les trois quarts du groupe, pouvoir s'appuyer sur ce groupe-là. Ça serait complètement stupide, surtout que c'est un groupe jeune, de tout changer.
Oui, complètement. Je rebondis ce que dit Joanne. On va pas tout bouleverser. En fait, le projet a commencé cette année et c'est un projet sur du moyen long terme. C'est pas un projet à court terme. L'objectif, c'est pas parce qu'on sort tous les joueurs et on en prend des nouveaux. Non, on va garder les trois quarts de l'effectif. On va regarder au niveau de notre formation s'il y a des jeunes joueurs qui ont du potentiel pour pouvoir intégrer, oui ou non.
Donc, à... dans la formation, c'est quoi? On va voir dans les U18, U19
U19 et la réserve.
Oui, la réserve, okay. Voilà. Ok.
Mais après, on va être obligé de se renforcer. Voilà, le constat qu'on a fait, c'est qu'on manque de taille. En R1, ça passe, mais en National 3, on a discuté avec Johan et avec d'autres personnes qui ont l'expérience de National 3. C'est vrai que ça joue beaucoup sur des coups de pied arrêtés. Donc, ouais. On va essayer de se renforcer avec des joueurs de grande taille. Mais voilà, on ne fera pas n'importe quoi. Il y a un budget à respecter. Et surtout, il y a un projet qu'on met en place doucement avec des jeunes joueurs et qu'on veut les amener à grandir et à continuer. Voilà, on ne veut pas devoir changer les 3/4 ou les 90% d'effectifs tous les ans. Ce n'est pas l'intérêt, justement. C'est de travailler sur du moyen long terme et de continuer à progresser. Et si on doit aller encore plus haut, ben on ira, mais étape par étape.
Ouais. On a envie d'avoir peut-être un futur Maxence Lacroix, un nouveau Maxence Lacroix peut-être. Maxence Lacroix formé du coup du côté de Trélissac.
Pourquoi
ça veut
pas,
dire qu'à à Trélissac, on s'est formé les jeunes.
Ah bien sûr. Et vous l'avez vu cette année, je peux vous garantir que si un gamin de 18 ans est prêt à jouer, je ne m'empêcherai pas de le lancer sans problème. Pour preuve, mon meilleur buteur, Sofiane Achour, a 19 ans.
Ouais, ouais.
Donc
ouais.
Moi, là, je m'importe peu. Simplement être performant sur le terrain et être travailleur. Et moi, je récompenserai. Et justement, dans l'équipe, il y a un Dorian Boyer qui a fait toutes ses classes à Trélissac depuis.
Dorian Bro aussi.
Voilà, Dorian Bro. Et il joue sans problème. Donc là, je m'importe peu. Le passé m'importe peu.
Ouais,
moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail effectué et le présent.
Et finalement, il y a peut-être des jeunes aussi que tu connais, que tu as eu finalement au niveau des jeunes.
Dorian Boyer, exactement, je l'ai eu en U17.
Ouais, ouais.
En U17. Et Mathias Baldo, qui est dans le groupe aussi, et que j'ai eu en U16.
D'accord.
Donc, que j'ai intégré parce que je pense que la formation à Trélissac est très bonne et qu'on doit être capable de lancer les gamins. Bien sûr qu'ils ne sont pas prêts immédiatement, qu'ils vont faire des erreurs, mais c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, il faut les lancer, il faut qu'ils fassent des erreurs, qu'ils commettent des erreurs. Et justement, avec ces erreurs-là, ils vont grandir, ils vont progresser et ils vont pouvoir être performants.
Une question qui arrive, quel sera l'objectif de l'équipe réserve l'année prochaine? Remettre dans le contexte, l'équipe du coup est en R2, l'équipe réserve est en R2, vous êtes je crois 4e ou 3e, vous êtes bien du coup, vous ne pouvez pas monter, mais du coup vous êtes bien au classement, donc quel sera l'objectif pour la saison prochaine? Est-ce qu'on veut monter aussi cette équipe réserve en R1?
Si après on a un effet, de toute façon l'équipe réserve au niveau de la R2, ça sera aussi un effectif très jeune, puisque le but c'est justement de ceux qui ne sont pas encore prêts pour rejoindre
faire passer un cap.
L'équipe première, voilà, c'est de s'aguerrir au niveau senior. Je pense que quand on sort des 18, et même parfois on l'a vu, on peut être en 19 nationaux, et la marche
est haute
quand on arrive dans le niveau senior, même si on est en R2, même parfois en R3, il y a des 19 nationaux qui des fois ne peuvent... s'acclimater tout de suite au niveau R3 parce que c'est un jeu complètement différent. Il y a beaucoup plus de physique, il y a beaucoup plus de vis aussi, puisqu'on se retrouve avec des joueurs forcément plus âgés, qui ont plus d'expérience. Voilà. Par contre, si on a un groupe capable de faire remonter, pourquoi pas. Maintenant, dans un premier temps, et on l'a dit, ce qu'on veut, c'est surtout continuer à travailler. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait une formation qui continue à être performante. Ça c'est clair. Pourquoi? Pour que si on travaille bien en bas, que ce soit notre équipe réserve ou l'équipe première, l'idée c'est, on a parlé du budget tout à l'heure, c'est que si on arrive à intégrer 2-3 joueurs, 3 c'est peut-être déjà beaucoup, mais au moins 2 joueurs par an qui intègrent le groupe de l'équipe première, on n'est pas obligé aussi d'aller recruter d'autres joueurs.
Ouais, ouais.
Donc c'est vraiment cet objectif-là. Après forcément que le championnat R1 sur un jeune joueur attire beaucoup plus. Il va jouer à un niveau plus élevé, il va être plus mis en difficulté. Donc, il est censé se développer et progresser par rapport à cette difficulté-là. Derrière, la question va être de savoir aussi quelle va être la réforme de la R1 future
aussi, ouais.
qui arrive, puisqu'il y a ce projet au niveau de la Ligue de foot Nouvelle-Aquitaine. Si jamais ça partait sur un projet pool unique, je pense avoir une équipe de 19 qui monte, ça pourrait être rapidement en difficulté d'être dans une poule unique de R1 sur toute la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il faut que savoir qu'avec le jeu des différentes réformes, la Régionale 1 est en train de voir son niveau quand même sacrément augmenter, puisqu'en 3 ans, il y a eu 72 clubs nationaux qui sont descendus dans les clubs régionaux. Ouais, dans les niveaux régionaux. Donc on est quand même sur des niveaux qui commencent à se densifier. Forcément pour nous, avoir une R1 et une N3, comme on avait auparavant, c'est l'idéal.
Ouais, ouais. Il y a peu d'écart, on peut aller chercher des gens de la réserve si jamais il y a besoin.
Bien sûr. Après, c'est vraiment pas la priorité.
Ouais.
Voilà, parce que la priorité, comme on a dit, c'est de... en réserve, de faire jouer les jeunes qui ont des U17, U18, U19, ah ouais. 20 ans.
Ouais.
Et on s'est rendu compte que pour leur apprentissage, vaut mieux acquérir ça en R2. Le niveau est bon, pas trop difficile, mais pas trop faible non plus.
Ouais, ouais.
Et ça leur permet de s'aguerrir. Alors que le niveau R1, ça commence à devenir un niveau assez élevé, avec beaucoup plus d'exigences. Et pour l'instant, je pense qu'on n'est pas prêt, justement, il faut y aller étape par étape. Mais si un jour, l'équipe réserve qu'avec des jeunes est capable de monter elle-même, il n'y a aucun problème, bien sûr qu'on ira, mais si c'est pour faire redescendre des joueurs de National 3 pour la faire monter, ouais. C'est pas le but en fait. Le but, c'est vraiment de donner du temps dans le monde senior à nos jeunes pour les faire grandir et pour pouvoir ensuite alimenter l'équipe première.
Le cap de la R1 à la National 3, c'est un cap athlétique, c'est un cap technique, c'est quoi?
Ouais, c'est un cap dans tous les domaines.
Ouais.
Dans tous les domaines, on monte d'un cran, comme a dit Johan, avec la réforme qu'il y a eu, forcément beaucoup de clubs qui étaient des gros clubs de National 2 sont maintenant National 3. Donc non, ça va être un cap athlétique, physique, mental, une exigence, des trajets plus longs. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc à nous d'élever notre exigence, de travailler encore plus encore plus que cette année pour pouvoir réaliser une bonne saison et terminer le plus haut possible.
Est-ce qu'il y a des inquiétudes quand on voit un petit peu tout ce qui se passe dans le foot en ce moment? C'est vrai, compliqué, même au niveau national, avec des clubs déjà en grosse difficulté financière. Est-ce que quand on voit ça, nous, on s'inquiète aussi en Dordogne?
Je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de sérénité l'année dernière dans le passage qu'on a vécu.
Ouais.
Je pense que ce qui nous caractérise, c'est qu'on a la chance d'avoir une assise financière avec une diversification des partenariats depuis plusieurs saisons, qui nous permet d'avoir une assise solide. Moi, je suis pas inquiet dans le sens footballistiquement parlant.
Ouais.
Par contre, effectivement, ce qu'on peut regarder autour de nous, c'est le contexte économique, voire géopolitique, qui va faire que ça va avoir des incidences sur l'économie certainement locale. C'est en train d'ailleurs déjà depuis un petit moment. Donc, c'est plutôt ce côté-là auquel il faut être attentif. Et c'est pour ça aussi que nous, là, vraiment, la philosophie, c'est de se retrancher derrière le travail local, derrière nous, notre territoire, et pas faire n'importe quoi. Je pense qu'aussi, s'il y a des clubs qui se sont retrouvés en difficulté, il y a encore eu des articles récents là, de clubs Nouvelle-Aquitaine et même en France, hein, certains qui annonçaient des choses pharaoniques, ont monté en Ligue 2 alors qu'ils étaient en National 3, et puis au final, 6 mois après, il n'y a plus d'argent, on apprend qu'il n'y a plus d'argent dans le club. Ouais, je pense qu'il y a aussi une mauvaise gestion, c'est pas que lié au football.
Oui,
c'est pas... donc derrière, moi c'est vraiment qu'on prend au niveau du club, c'est de continuer ce travail-là, et d'être sérieux et de pas faire n'importe quoi, entre guillemets. Enfin, c'est bien de vouloir monter, mais après il faut pas que la cocotte minute elle explose, quoi.
Ça on le voit dans de nombreux clubs. Est-ce que pour toi vous savez bien le gérer à Trélissac, mais est-ce que la fédération devrait pas mettre en place justement pour du coup structurer un peu tout ce qui est la partie gestion des clubs? Est-ce qu'il devrait pas avoir un accompagnement, même s'il y a le gendarme financier?
Effectivement, il peut y avoir un accompagnement. Après, je pense que la fédération ou comme l'État français dans d'autres domaines,
bien sûr,
ils peuvent pas. Ils peuvent pas
être partout.
Ils peuvent pas tout faire. Après, j'imagine, je suis pas dans les dossiers, mais j'imagine que peut-être leur idée de faire une Ligue 3 ou autre, c'est de rendre les clubs plus structurés, plus forts, d'avoir un niveau national plus épuré entre guillemets en nombre de clubs et éviter les tentations de vouloir accéder à tout prix à ces niveaux-là. Et faire un petit peu n'importe quoi. Maintenant, c'est assez marrant cette question, Jérémy, parce qu'on en parlait avec Mohamed dans la voiture tout à l'heure en venant. En fait, après, personne n'est à l'abri des différents dirigeants ou dirigeantes qui peuvent arriver dans les clubs. Et puis dire voilà, j'ai mon budget, j'ai tant, il me manque 400 000 euros. Si à partir de là, on se dit au début de la saison, il manque 400 000 euros et on ne sait pas à qui on va aller les demander. Je pense que là, il y a un problème. Il faut revoir très vite le projet. Si par contre, il vous manque 20 000 euros, c'est plus jouable que tenter le diable en disant bon mais c'est bon ça va le faire les gars, vous inquiétez pas, on gère.
On va gérer.
En général,
ouais, ça,
c'est là que les,
ça finit mal.
Voilà, les problèmes commencent.
Ouais. Momo, la montée l'année prochaine ? Encore ?
La montée.
Encore une nouvelle montée ?
Non, non. On va... Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va travailler pour gagner tous les matchs, le maximum de matchs possible.
Ouais.
Donc, non, non, l'objectif, on va rester humble, ça sera de se maintenir, d'être le plus haut possible, certes, mais de se maintenir. Après, on va essayer de surfer sur la vague qu'on a connue cette année, c'est-à-dire ouais. Une super saison avec beaucoup de victoires. On va essayer d'être dans la continuité et on verra où ça nous mènera. Et peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine ici et on pourra en discuter.
Avec une bonne nouvelle. Ouais,
voilà,
ouais,
exactement.
Ouais. 19h55, ça passe super vite. On aurait pu vous garder jusqu'à 21h si on voulait parler de plein de sujets. J'ai vu sur les réseaux sociaux que vous cherchiez un éducateur, je crois, U16, c'est ça ? Passé ? Non, je... j'ai vu passer ça cet après-midi sur vos...
Non, c'est des éducateurs U6 à U11.
Ah, U6 à U11, oui, pardon. Oui, voilà, donc on fait passer le message. S'il y avait une... Vous avez une minute, s'il y avait une dernière chose à dire, vous direz quoi ? Je vais commencer par moi, je terminerai par Yohan.
Non, moi, je voudrais remercier beaucoup de gens au club.
Ouais.
Parce que je vous dis, la réussite cette saison appartient à tout le monde. Les bénévoles, vraiment, qui font un travail remarquable... dans tout ce qu'on leur demande, franchement, ils sont là, ils donnent de leur temps. Les salariés du club, la direction, les joueurs, les supporters. Vraiment, je suis content parce que ça récompense voilà, le peuple trissacois. Donc, je tenais à les remercier de leur soutien, de leur encouragement et leur dire bah, écoutez, on va continuer à bosser le plus dur possible pour leur donner de la joie, en fait.
Yoann. Dans votre cas, la confusion.
Non, pareil, remercier vraiment tout le monde. Et en même temps, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur le budget, bah, remercier encore plus tout le monde parce que si on a pu maintenir un gros budget en R1, ce que certains apparemment aiment critiquer, mais c'est aussi parce qu'on a plein de personnes au sein du club qui ont fait des sacrifices aussi.
Ouais.
Voilà, notamment les éducateurs, notamment sur le fonctionnement aussi derrière où on a essayé de tout optimiser pour pas sabrer le budget de l'équipe première et remonter tout de suite. Donc voilà, je tiens à remercier vraiment tout le monde, des bénévoles aux salariés, aux éducateurs pour ces sacrifices durant cette année qui nous ont permis de rester performants.
Et un président fort qui reste toujours au contact du club.
Oui, avec l'autre président, Patrick Guérit.
Patrick Guérit, ouais. Petit clin d'œil à tous les deux. Merci à vous deux d'être venus dans la DHS. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée à tous. Merci, au revoir.
Merci.
Merci. Et vite passer. Micro sur